Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Héloïse Houille, c'est le titre du roman historique de Jean Tellet consacré aux amours d'Héloïse et Abélard. Occasion rêvée pour Franck Ferrand de donner satisfaction à Marie qui souhaitait entendre parler des deux amoureux les plus célèbres du Moyen-Âge. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. Depuis que le nouveau Tellet est arrivé dans le bureau, je peux vous dire que tout le monde se l'arrache littéralement. À ce stade, ce n'est plus du succès, c'est du magnétisme et je vais vous dire, c'est mérité. Car une fois de plus, Jean Tellet nous entraîne avec un humour, une maestria inégalée dans les arcanes méconnues de l'histoire. Vous allez entendre l'heureux auteur puisqu'il est avec nous pour commencer cet après-midi.
Et puis tout à l'heure à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Stéphane sur les origines des cabinets de curiosité.
Ah ben bien volontiers. Pour le moment, je vous propose de nous retrouver au quartier latin dans les années 1120.
Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Les deux dont je m'apprête à vous conter l'histoire se sont beaucoup aimés. Héloïse et Abélard forment, vous savez, un de ces couples légendaire. On pense évidemment à Tristan et Iseult, à Roméo et Juliette. La seule chose, c'est que là, on n'est pas dans l'imaginaire, on est dans la réalité. Le fait qu'ils se soient aimés dans la capitale des amoureux, à Paris, ajoute sans doute encore à la légende. Et justement, la question est de savoir où commence la légende et où finit la réalité. C'est une des questions que nous nous poserons tout à l'heure. Il y avait alors dans la cité de Paris une jeune fille nommée Héloïse. Ainsi commence la relation de cette liaison torride et dramatique. Nous sommes dans les années 1117-1118, donc à l'aube de ce 12e siècle qui, disons-le pour nous, est totalement exotique. Les repères qui sont les nôtres n'existaient pas, ou pour l'essentiel n'existaient pas encore au 12e siècle. La belle Héloïse a 17 ou 18 ans à ce moment-là, puisqu'elle est née avec le siècle. C'est une jeune fille adorable, non seulement elle est jolie, elle est saine, rayonnante, enfin, n'en jetez plus. Mais, chose assez rare à l'époque, elle est presque savante. Son oncle, qui s'appelle Fulbert, est chanoine à Notre-Dame de Paris. Il s'occupe si bien de sa nièce que les mauvaises langues prétendent même qu'en fait il s'agirait de sa fille naturelle. Il est vrai qu'on ne connaît pas de père à cette jeune personne. On sait seulement que sa mère s'appelait Hersant. Toujours est-il que tonton Fulbert a permis à sa belle Héloïse de suivre de longues études au monastère Notre-Dame d'Argenteuil. C'est là, à Argenteuil, dans ce méandre de la Seine. Aujourd'hui, Argenteuil est devenue une cité de banlieue très industrielle, etc. À l'époque, évidemment, c'est très campagnard. C'est totalement retiré. Eh bien, c'est là, parmi les nonnes lettrées, qu'Héloïse s'est initiée non seulement au latin, à l'époque c'est quasiment une langue vivante le latin, mais aussi au grec et même à l'hébreu. Nous sommes en présence d'une jeune fille cultivée. Voilà ce que Régine Pernoux nous dit. Elle estime qu'en ces temps médiévaux, on enseignait les lettres de trois manières. D'abord par les psaumes. Ça permettait les psaumes d'étudier, ça permettait d'apprendre, hein, puisqu'on enregistrait, on apprenait par cœur énormément de choses, on apprenait à chanter, il y avait un psautier, si vous voulez, ça c'était la méthode globale d'une certaine manière. Il y avait les langues anciennes qu'on abordait à travers un certain nombre de textes sacrés, ce qui n'empêchait pas d'étudier, dans les versions qu'on en possédait, les grands auteurs de l'Antiquité, Cicéron, Ovide, Aristote, etc. On étudiait la musique, l'arithmétique, la géométrie, à travers le regard qui avait été leur à l'Antiquité, et qu'on était simplement, qu'on empruntait au Moyen-Âge. Et puis, on apprenait avec des maîtres, ou en l'occurrence avec les fameuses maîtresses d'études d'Argenteuil, qui avaient fait de leur élève, d'Héloïse, une très brillante élève. Donc, Héloïse a achevé chez les bonnes sœurs d'Argenteuil ce qu'on appellera plus tard ses humanités. La voilà rentrée à Paris, chez son oncle, pour y suivre l'équivalent de ce qu'on appellerait nous des études supérieures, si vous voulez. Il faut quand même que je vous en dise un peu plus sur l'endroit de rêve où vivait alors le chanoine Fulbert, un endroit qu'on appelait le cloître Notre-Dame. C'était une sorte de ville dans la ville. Vous savez, il y avait la ville marchande et administrative au nord de la Seine, la ville purement intellectuelle, celle des collèges qu'on appellera le quartier latin au sud, et puis sur l'île de la Cité, dans les abords immédiats, vous aviez le cœur historique d'une cité, essentiellement tournée autour de sa cathédrale, bien entendu. Attention, n'imaginez pas la Notre-Dame gothique d'aujourd'hui, bien sûr, hein, c'était une cathédrale romane à l'époque, qui elle-même était entourée d'autres églises. D'ailleurs, il y avait la Saint-Étienne, il y avait le baptistère Saint-Jean-le-Rond qui a disparu au XVIIIe siècle, etc. Tout ça cloîtré dans une sorte de béguinage qui fait penser un peu au béguinage qu'on trouve aujourd'hui dans les Flandres. Quand vous allez à Bruges, par exemple, que vous entrez au merveilleux béguinage, vous avez toutes ces petites maisons alignées qui forment un cercle. Il faut imaginer un peu ça. C'est ça le cloître Notre-Dame, avec des jardins qui vont jusqu'à la Seine. Il n'y a pas de berge à l'époque, il n'y a pas de quai, évidemment. Ce sont des espèces de rives qui descendent comme ça tranquillement, des berges sablonneuses, couvertes de saules, couvertes de bateaux aussi, car il faut savoir que la corporation des nôtres était très importante dans la Lutèce, dans la Paris de l'époque. Et évidemment, depuis ses fenêtres, si je puis dire, depuis ses baies, le chanoine Fulbert a vu sur l'île Notre-Dame, ce qu'on appellera plus tard, quand elle sera bien unifiée, l'île Saint-Louis. Il faut imaginer qu'on emmène les vaches paîtres sur cette île en les faisant monter sur des barques plates. Enfin, quand j'essaie de vous dire que c'est exotique, vous voyez qu'on n'est pas du tout, bien sûr, dans l'état d'esprit d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de chats aussi sur les jetées de l'île future île Saint-Louis, cette île Notre-Dame, ce qui donnera plus tard son nom à la rue du Chat qui pêche, par exemple. Bref, je ne veux pas vous faire une topographie du Paris médiéval. Toujours est-il que dans cette île de la Cité, Héloïse est aux premières loges pour assister à ce qui la passionne, à ce qui capte entièrement son attention. Je veux parler des grands débats scolastiques du temps. Évidemment, ce sont des débats essentiellement théologiques. On a complètement... Alors voilà une chose, une dimension qu'on a intégralement perdue aujourd'hui. C'est ce qu'on appelait à l'époque la disputatio, c'est-à-dire la capacité à palabrer, si vous voulez, à établir des raisonnements, parfois très construits, très subtils, sur des arguments de base et à broder sur du néant, d'une certaine manière. Cette scolastique obéissait à des règles extrêmement précises. Elle était un peu ce qu'est devenu la télé aujourd'hui. C'était la passion des gens de l'époque, en tout cas des gens lettrés, de ceux qui possédaient assez de références pour profiter des arguments avancés dans le débat. Dans ces années 1115-1120, à Paris, il y a deux grands maîtres qui se partagent l'enthousiasme des étudiants d'abord et au-delà des étudiants, de tous ceux qui viennent assister à ces cours extraordinaires. Il y a d'abord Maître Guillaume de Champeau, bien entendu, qui vient de fonder l'abbaye de Saint-Victor, du côté de l'actuelle rue de Bièvre. Et puis il y a son élève, un élève qui a rejoint et dépassé le maître, celui qui s'appelle au départ Pierre Béranger et qui se fait appeler Abélard, et qui est un peu, passez-moi l'expression, la star du moment.
Un extrait de l'ouverture de Tristan et Iseult dirigé par Karayan. Pour réagir tout au long de l'émission, nous envoyez vos messages et vos questions, chers auditeurs. Il y a la page Facebook de l'émission, les mails europe1.fr ou encore via Twitter le compte de Franck Ferrand ou hashtag ACDH. Dans un court instant sur Europe 1, la suite de votre récit Franck Ferrand sur Héloïse et Abélard.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Revenons avec vous Franck Ferrand à la rencontre de nos amoureux mythiques Héloïse et Abélard.
Alors, cet Abélard, il est né aux alentours de 1080, pas très loin de Nantes, dans une famille de petite noblesse. Son père était un soldat, un lettré aussi, et lui Abélard, enfin Pierre, mais on va l'appeler maintenant Abélard, a renoncé à son droit d'aînesse parce qu'il voulait étudier ce qu'on appelle à l'époque la logique. La logique, c'est ce que nous appellerions, nous, la philosophie. Il est passionné de philosophie. Alors, il va parcourir les provinces, il a fréquenté, bien sûr, le cours de Maître Guillaume. Il a eu d'ailleurs tout de suite eu beaucoup de succès, ce qui a été assez difficile, assez pénible pour son professeur. Et puis, il a ouvert une école loin de Paris, à l'époque, à Melun. Le voilà à Corbeil, il revient à Paris, s'installe sur la montagne Sainte-Geneviève et là il va remporter une victoire décisive sur Guillaume de Champeaux dans la question dite des universaux. Les universaux, c'était les notions fondamentales, les notions générales de la philosophie, si vous voulez. Alors j'entre pas dans tous ces débats et dans toute cette question de scolastique, mais sachez que Abélard parle admirablement bien, qu'il est beau, qu'il a un charisme incroyable. Eh bien, croyez-moi, si vous voulez, c'est ce personnage adulé, c'est ce que nous appellerions, nous, cet intellectuel lancé, qui va venir heurter la porte du chanoine Fulbert au cloître Notre-Dame. Autrement dit, le grand penseur de l'époque se présente au domicile de la plus passionnée des étudiantes, parce qu'évidemment qu'Héloïse l'a plus que remarqué, elle fait partie de toutes ces jeunes filles qui ouvrent des yeux écarquillés dès que Abélard dit un mot. Lui-même est un peu là des ruines de Sainte-Geneviève, il est célibataire, il s'estime incapable de tenir une maison, bref, il veut devenir pensionnaire chez Fulbert, dont le prestige, la réputation est revenue jusqu'à ses oreilles. Alors, il demande à Fulbert de l'héberger. Évidemment, c'est un prestige inouï, c'est une chance pour le chanoine qui accepte, les larmes aux yeux. En vérité, tonton Fulbert aurait dû se montrer un peu plus méfiant parce que notre Abélard ne s'est pas présenté par hasard. Bien entendu, il a toute une stratégie en tête. Contre toute attente, c'est une stratégie amoureuse. En vérité, Abélard n'a qu'un but, se rapprocher de cette charmante jeune fille qu'il a repérée pendant ses cours, avec qui il a échangé assez de mots pour comprendre qu'il a affaire à un être hors du commun. Voilà ce qu'il confie lui-même, parce qu'on a le témoignage d'Abélard, ce qui change tout, bien entendu. C'est une traduction moderne. « J'étais en effet si célèbre, et je possédais si bien les grâces de la jeunesse et du corps, que je ne craignais aucun refus de quelque femme que j'eusse jugée digne de mon amour. Je pensais en outre que cette jeune fille me céderait d'autant plus aisément, qu'à la fois, je le savais, elle était cultivée et se complaisait à cette culture, même dans l'absence, nous pourrions rester en contact au moyen de messages écrits et écrire bien des choses trop hardies pour être dites. » Et ainsi, nos délicieux entretiens ne seraient jamais rompus. Abélard a eu raison de se montrer sûr de lui. En effet, Héloïse tombe entièrement sous son charme. Au premier cours privé, elle est troublée. Au second, elle s'exalte. Au troisième, la voilà éperdument amoureuse. Les cours vont prendre un tour très physique. Dans notre fougue, écrit toujours Abélard, nous ne négligions aucun degré de passion. Et si l'amour pouvait imaginer quoi que ce soit d'inusité, nous l'ajoutions aussi. Et moins nous étions experts en ces joies, plus grande était notre ardeur à y persister, nous ne pouvions connaître la satiété. Est-ce que vous imaginez un peu ce qu'un gentelet peut faire de confidences comme celle-ci? Alors c'est vrai qu'il est 14h19 et que nous sommes sur une grande station généraliste, donc je ne vais pas vous lire certaines des pages du roman, mais vous en avez sans doute déjà entendu parler. Évidemment, c'est la porte ouverte là à une débauche de fantasmes que Abélard, par les confidences qu'il nous livre, ne fait qu'encourager lui-même. Je vous rappelle que lui a 38 ans, mais qu'il est très inexpérimenté dans les choses de l'amour. Quant à Héloïse, elle n'en a que 17, et encore une fois, elle est absolument ravissante. Les cours particuliers ont pris, vous l'avez compris, un tour très, très particulier. Ce qui s'est passé en ce printemps 1118 dans les vergers fleuris de la cité de Paris relève du grand bonheur. C'est quelque chose d'un peu hors du temps. Et c'est vrai que ça donne forcément toute licence à un auteur qui sait parler d'amour. Avec une facilité déconcertante, mieux avec la bénédiction du chanoine Fulbert, c'est ça qui est un peu incroyable, ces deux êtres qui paraissent faits l'un pour l'autre vont connaître les délices. Lui aime le plaisir. Elle aime Abélard, il va se rendre compte que finalement, il l'aime aussi, il aime Héloïse, mais pour s'en rendre compte, il va falloir qu'ils soient séparés. Évidemment, les cours que donne Abélard par ailleurs s'en ressentent. Ses étudiants se disent « mais qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il n'est plus du tout aussi concentré. Les grandes envolées lyriques qui faisaient l'éblouissement de l'auditoire se font de plus en plus rares. Évidemment, l'essentiel de son énergie, de sa fougue, Abélard les réserve maintenant à Héloïse. » Et les étudiants sont furieux. La rumeur commence à courir Paris. On commence à dire qu'Abélard est amoureux. Et de qui ? Et c'est là que le chanoine est sans doute informé par une mauvaise langue. Il est outré de ce qu'il apprend. Il va les surprendre sur le fait. Les voilà nus, enlacés sous les yeux, exorbités de tonton Fulbert qui voit rouge. Abélard est jeté à la porte. Et c'est là. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est quand il se trouve séparé d'elle qu'il réalise qu'il était sans doute beaucoup plus amoureux qu'il ne le pensait. Je vous avais dit qu'on allait être plongé au cœur d'une belle histoire d'amour. Vous imaginez bien que ce n'est que le début. Abélard ne va pas se laisser faire. Il ne va sûrement pas se laisser déposséder de ce qui, à ses yeux, représente l'essentiel en ce monde.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Retour avec vous Franck Ferrand à nos amoureux du XIIe siècle, Héloïse et Abélard.
Donc Abélard va faire le mur du chanoine Fulbert. Alors il a la complicité de quelques étudiants qui vont l'aider. Et il demande à Héloïse de retrouver la tenue de religieuse qu'elle portait au couvent d'Argenteuil. Et comme ça il va pouvoir la faire s'échapper sous une tenue tout à fait discrète. « Dans quoi m'entraînes-tu encore ?» fait dire Gentelet à Héloïse qui s'inquiète mais qui en fait est assez heureuse de ce qui est en train de se passer. S'inquiète Héloïse qui enjambe rapidement sa fenêtre pour descendre le long de l'échelle tandis qu'Abélard d'en bas en profite pour reluquer les jolies fesses nues de sa belle sous une robe de religieuse. « Et toi, pourquoi te vois la tête presque entièrement dissimulée par le capuchon d'une soutane d'abbé ? La raison de cet accoutrement ?» Dépêche-toi, le soir tombe, il faut qu'on sorte de la ville avant le couvre-feu. Quitter l'île de la cité, mais pour aller où ? Au bord de la Bretagne, chez ma sœur, au palais, près du manoir paternel. C'est là que tu feras tes couches. Eh oui, car elle est enceinte. J'ai quand même oublié de vous dire peut-être l'essentiel. Notre Héloïse est enceinte, elle va donner naissance au petit Astrolabe. Vous avouerez que c'est un prénom indiqué pour des amoureux et des amateurs de science et de pensée. C'est là que tu feras tes couches. Petit-fils de seigneur, Astrolabe aura droit au blason familial chargé d'une brisure, la barre de bâtardise. C'est folie, ma amour. Marche à mon côté et fais mine d'égrener ton chapelet. Quid plura, ce qui veut dire qu'ajouter, panique la future jeune mère, transie d'angoisse. C'est toujours Gentelet qui écrit, bien entendu. J'ai des soldes dans mes aumônières, un morceau de lard, du fromage, travesti en religieux, on aura moins à craindre les détrousseurs. Il croise des scolars éméchés qui s'interpellent en diverses langues étrangères. L'un d'eux chante « Tu fais d'un regard s'évaporer en nuages le niveau d'eau de ta clepsydre, ô Héloïse !» Je les retrouverai en cours dès mon retour du palais où je vais devoir te laisser seul pour mettre bas aux premières cerises, confie le maître que ses élèves n'ont pas reconnu. Les deux amoureux déguisés longent hâtivement des ateliers, passent précipitamment sous une halle où Héloïse prend peur. « Mais, ma amour, si tu reviens ici, songe à la réaction extrême de mon oncle. Ses cheveux se dresseront d'une façon féroce et paraîtront des crins de diable. À la découverte de mon enlèvement par toi, il va tomber en démence, chercher quelles embûches terribles te tendre, quel mal atroce te faire. » Te tuer peut-être ? Non, il ne me tuera pas, car il redoutera que sa nièce adorée subisse le même sort puisqu'elle sera dans la famille de son ravisseur. Oui, mais s'il te faisait énucler, et voilà, la question est posée. Elle a quand même une certaine clairvoyance, cette jeune Héloïse. Évidemment, les amoureux vont se régaler, si je puis dire, de leur fuite. Mais c'est une fuite qui ne mène pas très loin. La seule solution, finalement, ce serait qu'ils se marient. Mais Héloïse est totalement opposée à l'idée du mariage. C'est en tout cas ce que nous dit Abélard. Voilà les mots qu'Abélard place dans la bouche de sa fiancée. Quel préjudice ce mariage porterait à l'Église ? Quelles larmes il coûterait à la philosophie ? Combien ne serait-il pas inconvénient et déplorable de voir un homme que la nature avait créé pour le monde entier asservi à une femme et courbé sous le joug déshonorant. Oui, on est quand même au début du XIIe siècle, que vous vouliez ou non. Bref, le mariage a lieu en grand, en très grand secret, sauf que Fulbert ne va pas respecter l'accord. Lui claironne la nouvelle et bientôt la rumeur est tellement répandue qu'elle empoisonne les relations entre Héloïse et son mari et qu'elle fait peser sur la carrière de Abélard un risque certain. Alors pour tenter de calmer le jeu, Abélard envisage une riposte qui ne fait pas vraiment honneur au personnage, il faut le dire, puisqu'il va faire prendre l'habit religieux à sa femme et son idée c'est de la faire disparaître au couvent, disons-le, c'est terrible l'idée d'Abélard. Et là, on a la réaction tellement dévouée d'Héloïse, qui est pleine, on peut dire, qui est pleine d'abnégation. La vérité, c'est qu'Abélard, pendant ce temps, lui, va continuer à mener belle et joyeuse vie, un peu trop joyeuse. Ça revient aux oreilles de l'oncle. Fulbert ne décolère pas, alors comme ça, ce saligaud va pouvoir se débarrasser d'Héloïse et continuer à vivre dans la débauche. Il va voir de quel bois je me chauffe. Là, il y a malentendu, c'est évident, mais c'est un malentendu qui va entraîner de terribles conséquences. Bonjour Jean Tellet.
Bonjour.
Dans un instant, nous allons revenir avec vous sur cette histoire. D'abord, on va la terminer, cette histoire, et puis voir ce qu'il faut en penser, finalement.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire, vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, d'Héloïse et Abélard, avec votre invité, l'écrivain Jean Tellet, auteur d'Héloïse Houille, aux éditions Julliard.
Oui, on comprend pourquoi. Enfin non, on ne comprend pas encore parce que je ne vous l'ai pas raconté. Je vais laisser à Jean Tellet le soin de le faire. Si vous voulez, Jean Tellet, on va repartir au moment où nos tourtereaux sont en train de quitter Paris.
Pour que Héloïse puisse accoucher
tranquillement
au palais à 26 km de Nantes.
D'ailleurs, c'est Jean Seb qui, via Twitter, nous dit « Pierre Abélard est né dans mon village d'enfance, au palais, petit bourg, au sud de Nantes, où l'on trouve aujourd'hui un joli musée sur Abélard. »
Ouais. Ouais, ouais.
Alors donc, les voilà partis pour la Bretagne, chez la sœur de Pierre, chez la sœur d'Abélard.
Et Héloïse va accoucher, donc d'un enfant, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui s'appelle Astrolabe. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est Héloïse qui a choisi le prénom. Au XIIe siècle, elle n'a pas choisi un prénom chrétien. Ce qui est, et elle est complètement étonnante. Et un enfant dont ils ne s'occuperont jamais. Et Héloïse a expliqué ça plus tard en disant dans un tel amour il n'y avait pas de place pour un enfant quoi. Et c'est juste un peu avant de mourir qu'elle a demandé à Pierre le Vénérable qui était l'abbé de Cluny d'essayer de trouver une place pour Astrolabe et on pense qu'il a sans doute été chanoine de la cathédrale de Nantes.
Avec un prénom pareil ça devait être facile.
Ouais.
Alors ils vont se marier néanmoins, ça c'est l'accord qui a été passé entre Abélard et le chanoine Fulbert. Au départ, c'était un mariage totalement secret, parce qu'il ne fallait pas porter ombrage à la réputation et à la carrière d'Abélard.
Mais oui, parce qu'Abélard était destiné à devenir archevêque, voire pape. Et alors là, quand tout d'un coup tout le monde apprend qu'en fait il s'est marié, le trône de Saint-Pierre s'éloignait vraiment quoi. Et Abélard en fait ensuite, comme Fulbert à la sortie du mariage, comme ça devait être un mariage secret, il n'était pas question que Héloïse vive avec Abélard. Et en attendant, donc Fulbert a dit moi je vais garder Héloïse. Et il a été très méchant avec Héloïse, il la battait et tout. Abélard apprenant ça requinappe une deuxième fois Héloïse. Cette fois-ci pour la mettre au couvent d'Argenteuil, en visiteuse libre, en disant en attendant que tout se calme et tout. Et là, Fulbert apprenant ça, alors là, il devient vraiment hors de lui. Et là, c'est opération Vendetta. Il engage trois larrons. Et
Ne nous racontez pas ça tout de suite. Je voudrais d'abord qu'on revienne sur le type de relation entre Héloïse et Abélard. Parce que ce qui ressort de votre livre... Et bien entendu, il y a la part de l'imaginaire de l'auteur, mais c'est qu'on est dans un amour total.
Ouais.
C'est-à-dire que c'est un amour qui n'est ni totalement physique, ni totalement spirituel. C'est un mélange des deux. L'un s'alimente de l'autre et l'on est à la recherche d'expériences constamment nouvelles.
Exactement. Et très physique. Et Abélard, dans une des lettres que vous citiez tout à l'heure, qu'on appelle lettre de consolation à un ami où il raconte sa vie, il dit en gros, avec Héloïse, on a fait tout tout ce que deux corps peuvent se faire. On a exploré toutes les fantaisies sexuelles le plus loin possible.
Jusqu'au plus inusité, dit-il.
Et oui, et il dit, et j'allais jusqu'à, on sait qu'ils avaient même des plans SM, parce qu'il dit, j'allais jusqu'à la frapper. Et, mais les coups que je lui donnais étaient plus doux que des baumes. Et les lettres qu'a ensuite Héloïse a écrites à Bellart, elle ne lui dit jamais, rappelle-toi, lorsque nous parlions philosophie ou que je te récitais des poèmes, elle ne lui parle que de sexe. Et elle n'a que le regret de ça.
C'est comme si c'était une langue supplémentaire ajoutée à toutes celles qu'il pratique
exactement.
Déjà.
Exactement. Et à un moment, elle lui dit, je n'ai pas le remords des péchés commis, j'ai le regret des plaisirs perdus. Et à un autre moment, elle lui dit une phrase absolument hallucinante. Elle lui dit, alors qu'elle était abbesse et qu'elle s'adresse à un abbé, elle lui dit, si je pouvais à nouveau ouvrir la bouche et laisser aller ma langue, ce ne serait pas pour me confesser. Et à un autre moment, elle lui dit aussi, si Auguste, le célèbre empereur, m'avait jugé digne d'être sa femme et m'avait assuré la possession du monde entier, je lui aurais répondu plutôt que d'être son impératrice, je préférais rester ta putain. Ta putain ! Une abbesse qui écrit ça à un abbé. Et donc, ça a été, elle était chaude bouillante jusqu'à la fin de sa vie.
Non, je l'ai présentée un peu comme une petite colombe, là, comme une oie blanche, presque. Mmh. C'était pas le cas, quand même.
Pas du tout, non. Et il semblerait qu'ils avaient une doctrine entre deux. J'ai lu ça chez Charles de Rémusat, qui est une doctrine qu'avait inventée Héloïse et qui était d'une modernité incroyable. Quand Abélard avait des idées un peu bizarres, sexuel, tout ça, et elle lui dit, leur doctrine était tout ce que tu me fais, je te le fais. Tout ce que je te fais, tu me le fais. Ce qui fait que quand, évidemment, il y a des choses de sodomie,
ça ouvre des horizons.
De machin comme ça et tout, voilà, ça ouvre des horizons. Quand ça marche dans un sens, faut que ça aille dans l'autre, quoi. Et ça, au XIIe siècle, c'est d'une modernité incroyable.
Mais alors, je vais peut-être un peu vite en besogne, là, mais est-ce que, c'est le cas de le dire, mais est-ce que tout ce qu'on leur prête n'est pas le fruit des fantasmes et de l'imagination de tous les auteurs qui, par la suite, sont venus en rajouter sur la confession d'Abélard. Et quitte à lui prêter quelques lettres, d'ailleurs, parce qu'on ne sait pas lesquelles sont véritablement de maître Abélard et lesquelles lui ont été prêtées de manière apocryphe.
On pense que les quatre premières doivent être vraies. Mais effectivement, ensuite, il y a plein de gens qui ont voulu écrire la suite de leur correspondance, et là, on a des gros doutes. C'est pour ça que moi, dans mon roman, je parle que des quatre premières lettres. Ouais.
Alors, Fulbert ne va pas accepter que Abélard, d'une part marié, ayant s'étant éloigné de sa femme, toujours pour cette histoire de réputation, etc., ait lui-même des relations avec d'autres femmes. Est-ce que c'est avéré d'abord ?
Non, c'est pas avéré du tout. Et Abélard, avant de rencontrer Héloïse, disait pour moi les jeux de Cupidon. Je ne vais pas souvent jouer à la cour de Vénus. Mais au contact d'Héloïse, là, ils se sont déchaînés.
Parce que oui, il avait 37-38 ans quand ils se sont
20
rencontrés.
Ans de différence,
ils ont 20 ans de différence. Mais ce qui est étonnant, c'est que on pourrait presque dire qu'il n'a pas beaucoup plus d'expérience qu'elle.
Mais
somme
non,
toute, hein.
Mais non.
Elle lui a fait découvrir des régions insoupçonnées
mais
lui-même.
Ouais,
en fait.
Ouais. Et pour un écrivain, ça c'est formidable. Quand Abélard dit, on a fait tout ce que deux corps peuvent se faire. Ah bon? Comment ça, ils ont tout fait?
Eh ben, allons-y.
Je vais développer, parce que dans toutes les travaux d'historiens, puis les historiens, c'est normal qu'ils fassent ça, ils racontent comment Héloïse et Abélard se rencontrent. En une phrase, ils se débarrassent en disant, pendant un an et demi ou deux ans, ils vécurent des amours torrides, puis après, ils racontent la suite. Et moi, je dis, comment ça, une phrase? Moi, je vais en faire 150 pages.
Bien sûr, vous êtes là pour ça. On va se gêner.
Alors,
évidemment, j'ai laissé moi les choses en suspens, c'est le cas de le dire. J'ai dit, il va voir de quel bois je me chauffe.
Ouais.
Quelle est la... Alors, je pense qu'une immense majorité de nos auditeurs le savent, mais il y a peut-être de jeunes auditeurs qui vont le découvrir à l'occasion. Quelle est la sanction ?
Fulbert dit, Abélard a baisé ma nièce au lieu de lui donner des cours. Je vais lui faire couper les couilles. C'est aussi simple que ça. Et donc, il engageait trois larrons. Et pendant que Abélard dormait, ils sont rentrés dans la chambre. Ils lui ont écarté les jambes. Et il y en a un qui a tranché tout ce qu'il y avait là-dedans. Et entre les jambes.
On comprend mieux le titre de votre ouvrage, Gentelet. Héloïse Houille.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
C'est Héloïse et Abélard qui sont au cœur de l'histoire cet après-midi et vous nous en parlez, Franck Ferrand, avec votre invité, l'écrivain Jean Tellet, auteur d'Héloïse Houille, aux éditions Julliard.
Alors vous avez eu la version de la castration par Jean Tellet. Je vous propose de donner la parole au premier témoin du drame, à Abélard, à la victime. Voilà ce qu'il écrit. Une nuit, enfin ce qu'il est censé écrire, hein. Une nuit, tandis que je dormais dans ma chambre, mon serviteur ayant été acheté, ouvrit la porte de la maison à des bandits conduit par Fulbert, qui se précipitant sur moi, me firent subir la plus barbare, la plus honteuse des vengeances. L'acier sépara de moi les parties de mon corps par lesquelles j'avais commis la faute dont il se plaignait. Voilà une façon assez sobre, somme toute, de parler de la vengeance et de l'opération, Jean Tellet.
Oui, et alors les historiens se demandent qu'est-ce qu'on lui a coupé. Parce que si on lui a coupé que les couilles, ça empêchait pas. Et moi j'ai appris ça en écrivant ce livre. Je croyais que quelqu'un à qui on coupait les couilles pouvait plus bander. Et pas du tout. Et d'ailleurs dans la Rome antique, les dames choisissaient des eunuques comme amants parce que ça leur permettait de se faire sauter
en
sans se
impunité.
Retrouver en cloque.
Eh ben voilà. Vous êtes bien sur Europe 1, il est 14h44.
C'est une émission sur l'histoire en
voilà,
gros.
Voilà, c'est une émission d'histoire que nous faisons. Alors le pauvre Abélard, à partir de là, je dis le pauvre Abélard et la pauvre Héloïse, évidemment, ils vont vivre à partir de là des vies séparées. Vous savez ce qu'on appelle une bonne histoire, Jean Tellet ? C'est une histoire dont on pense constamment qu'elle est tellement riche, tellement forte, qu'elle est quasiment terminée et dont on découvre qu'elle a encore beaucoup à livrer. Et là, c'est le cas. C'est-à-dire qu'à chaque chapitre, on se dit « bon ben là, cette fois, on a tout vu ». Non ! Ce qui arrive maintenant, c'est peut-être la véritable histoire d'Héloïse et Abélard.
Mais oui, parce que quand Abélard donc se retrouve eunuque, arrive Héloïse. Et ils étaient mariés, donc. Et Abélard dit, maintenant, voilà, ma vie, elle est foutue. Moi qui ai été, comme vous le disiez tout à l'heure, une idole de la jeunesse, une star, tout ça, tout le monde m'admirait et tout. Maintenant, tout le monde va se foutre de ma gueule. D'ailleurs, on commence déjà à m'appeler Pierre l'incomplet, Pierrette, Quick et tout. Il dit, tout le monde va se foutre de ma gueule. J'ai dit, il me reste plus qu'une solution, c'est d'entrer dans un monastère et de devenir moine. Mais il se trouve qu'à l'époque, quand dans un couple marié, l'un des deux voulait rentrer dans les ordres, il ne pouvait le faire qu'à condition que l'autre le fasse aussi. Donc Abélard, quand il décide de devenir moine, il dit à Héloïse, toi donc il faut que tu deviennes religieuse à vie et on se verra plus jamais. Et Héloïse a 20 ans, elle dit mais attends, j'ai 20 ans, j'aime la vie, j'aime l'amour, j'aime tout, tu sais bien tout ce que j'aime d'autre et je peux pas foutre ma vie en l'air.
Tu sais mon bien-aimé, lui écrit-elle, et le monde entier sait ce que j'ai perdu en toi. Tu sais que le lamentable désastre de cette insigne et suprême trahison m'a privé de mon être même en te prenant à moi et que je souffre infiniment plus que de la façon dont je t'ai perdu que de ta perte même. C'est parce que j'ai tant de raisons de souffrir que j'ai tellement besoin d'être consolé, mais cette consolation ne peut venir que de toi, puisque toi seul es cause de ma douleur, toi seul peux m'apporter le baume du réconfort.
Oui. Parce que là où Héloïse est complètement incroyable, c'est qu'elle accepte. Elle dit, d'accord. Je retourne au couvent pour la vie entière. Et moi, je me suis amusé à demander à des dames, et puis une de vos assistantes, quand on préparait l'émission, à un moment, quand on parlait de ça, je lui dis, mais vous, par amour pour un mec, vous entreriez à vie dans un couvent? Et sa réponse a été, non. Et Héloïse a été, d'accord.
J'espère qu'on coupera ce passage au montage.
Mais oui.
Pour son mari, notamment. Alors, on a énormément de réactions sur cette histoire parce qu'évidemment, c'est une histoire qui nous parle, qui parle de la vie, qui parle de l'amour, qui parle des relations charnelles. Et votre livre est charnel, vous l'avez voulu.
Ah
comme
oui,
ça.
Moi je voulais qu'il soit complètement, effectivement, charnel, sensuel, sexuel et tout, parce que ça a été la grosse affaire de leur vie.
Cette histoire va se terminer beaucoup plus tard. C'est-à-dire que ça dure et ça dure et ça n'en finit pas. Et l'un et l'autre vont acquérir une véritable dimension par la suite. C'était loin d'être fini. Tout ne s'est pas arrêté avec la punition d'Abélard.
Non, parce que ensuite Abélard au couvent s'est mis à écrire des livres. Et comme il était logicien, il a voulu chercher la logique de Dieu.
Au 12e siècle, c'est leur disant philosophe.
Voilà. Au 12e siècle, chercher la logique de Dieu. Dieu, il s'est mis à tout contester. Et alors, il s'est retrouvé devant un premier tribunal ecclésiastique à Soissons, qu'on appelle un concile, où là, il a failli être condamné à mort. Il a été condamné à brûler son propre livre Théologia, qu'on appelait à l'époque Stupidologia, de brûler son livre. Et sur ordre du pape, le pape a ordonné qu'on brûle tous les livres d'Abélard partout où on en trouvera, afin qu'il n'en reste plus mémoire sur terre. Ensuite, plus tard,
c'est quand même d'une violence, décidément. Cet homme-là aura connu toutes les castrations possibles, si je puis dire.
Vous avez bien raison, parce que les gens disaient, après lui avoir coupé les couilles, maintenant on devrait lui couper la langue. Dans un autre monastère à Saint-Denis où il s'est retrouvé, les moines ont voulu le démembrer. Après, il s'est retrouvé en Bretagne, à Saint-Gildas-de-Ruisse, dont il était l'abbé, dont il était le père supérieur, avec des moines complètement dévoyés, qui ont d'abord tenté de l'empoisonner, puis de l'égorger. Il a dû s'enfuir lui-même de son propre couvent par les égouts. Ce type, tout le monde a toujours voulu tout lui couper, quoi. Et ensuite, donc, à Sens, il s'est retrouvé face à un deuxième concile où il avait écrit un livre qui s'appelait Sikénon, où il faisait, en 158 points, il notait 158 incohérences de la religion catholique, selon lui.
C'était un petit peu hérétique, ça.
Et c'était très, très, très gonflé à l'époque. Et là, il a été condamné, une condamnation que je ne savais même pas que ça pouvait exister, condamné au silence perpétuel. C'est-à-dire, à partir de maintenant, tu fermes ta gueule. Tu ne dis plus un mot sur la religion sous peine de décapitation. Donc c'était un type d'un culot invraisemblable.
En fait, d'un côté, vous avez avec Héloïse la, comment pourrait-on appeler ça, la tragédie de l'acceptance. Elle est dans l'abnégation, dans le repli, elle accepte à peu près tout ce que veut bien Abélard. Et de l'autre côté, avec Abélard, on est dans le drame de l'inhibition, ou plus exactement de sa transgression. Ouais. Et c'est ça, je pense, parce que si on regarde tous vos grands personnages, Gentelet, ce sont des transgressifs, essentiellement. Ouais. C'est ça qui a dû vous fasciner,
Oui, c'est ces gens-là qui sont absolument passionnants. Et Héloïse et Abélard, quand ils se sont retrouvés tous les deux dans le couvent monastère, se sont vus une seule fois. Et Abélard... Abélard a été très distant, a demandé à Héloïse de maintenant le vouvoyer, et on connaît la dernière phrase qu'ils se sont dites par une sœur qui était là, qui a raconté ça plus tard. Héloïse a dit à Abélard, rappelle-toi quand tu étais mon homme, et lui serait parti en disant, je ne suis plus un homme. Et il paraît qu'il avait changé physiquement, comme les eunuques, il n'avait plus de système pileux, il s'est mis à ressembler à une vieille femme, et puis voilà, et maintenant ils sont tous les deux au Père Lachaise, c'est Louis-Philippe qui les a fait venir au Père Lachaise, ils sont sculptés en gisant, côte à côte, les mains jointes, et c'est un tombeau, c'est fort. Formidable, ça. 9 siècles après leur mort, qui est continuellement fleuri. C'est le rendez-vous des amoureux, parce qu'on dit d'Héloïse et Abélard que ce sont les amants éternels, et on dit aussi des gens comme Rougemont, qui ont écrit L'amour et l'Occident, Seignobos, tout ça, disent que ils sont les inventeurs de l'amour. Et moi je me disais, c'est quand même intéressant de raconter l'histoire de ce couple qui a inventé, c'est incroyable,
inventer l'amour moderne, disons.
Qui est l'amour moderne, parce qu'avant on était dans la fine amour, l'amour courtois. Ah, que tu, vous, ma chère princesse, vous êtes jolie comme une liane, des trucs, des conneries comme ça. Ou alors on se mariait pour des raisons d'intérêt, que ce soit chez les nobles ou les charcutiers et tout. Et là, tout d'un coup, c'est l'amour passion sans aucune raison. Et l'amour total, l'amour physique, l'amour à mort et l'amour éternel. Et avec la fin, on raconte un truc qui est qu'on appelle le miracle d'Abélard. Ils sont morts à 20 ans de distance. Abélard meurt, il se retrouve dans le couvent où était Héloïse. Déjà, un abbé entouré dans un couvent de bonnes sœurs, c'est déjà pas fréquent.
Il ne risquait pas de leur faire grand-chose.
Mais Héloïse, après, a voulu être enterrée avec Abélard. Et donc, 20 ans plus tard, elle meurt. Et là, les sœurs qui étaient présentes ont raconté ça. C'est que quand Abélard était couché sur le dos, au fond du tombeau, et quand on a balancé le corps d'Héloïse sur Abélard, par contraction sur les os de la poitrine ou tout ça, ou des irrégularités du sol, les bras d'Abélard, les os d'Abélard se seraient rabattus sur le dos d'Héloïse. Et Héloïse se retrouvait enlacée par Abélard pour l'éternité.
Post-mortem.
Ouais, ça c'est la classe. Hein.
C'est magnifique.
Ça c'est la grande classe amoureuse.
Ça n'est pas étonnant dès lors que Louis-Philippe ait fait transporter leur sépulture au Père Lachaise et que, d'une façon plus générale, tout ce 19e siècle épris de Moyen-Âge, d'histoire troubadour, se soit entiché d'Héloïse et d'Abélard. Ils sont vraiment devenus des figures, des icônes du 19e siècle.
Et pas que pour les Français. Hein. J'ai lu il n'y a pas longtemps que dans les années 60-70, la première destination, par exemple, des touristes américains en France, avant la Tour Eiffel et Château de Versailles, c'est le tombeau d'Héloïse et Abélard au Père Lachaise.
Ouais, c'est quand même
formidable,
extraordinaire.
Formidable. Qu'est-ce que j'aurais aimé la connaître, c'était le ça, c'est de la gonzesse.
Ouais. Et d'autant plus qu'on la connaît un peu par ses écrits.
Oui,
ou
oh, les
par
lettres.
Ses lettres.
Les lettres d'amour d'Héloïse, je n'ai jamais rien lu de plus beau, de plus bouleversant.
Alors, qu'y a-t-il de vrai dans les lettres d'Héloïse et dans celles d'Abélard, hein, l'Historia Calamitatum Mearum, l'histoire de mes malheurs.
Ouais.
Qu'y a-t-il de vrai et qu'y a-t-il d'apocryphe, ça c'est très difficile à savoir.
C'est très difficile parce qu'à partir et en plus tout ça se passe avant le papier. Hein. Tout était écrit soit sur parchemin, soit sur tablette de cire, et ça a été recopié en français un siècle et demi plus tard. Donc est-ce que ça a été trafiqué et comment est-ce que ça a été radouci ou exagéré? On n'en sait évidemment rien et on saura évidemment jamais.
Je vous signale, Jean Tellet, qu'Audrey vient de lancer sur Internet une pétition pour que vous soyez invité perpétuel de cette émission.
C'est trop mignon. C'est
en attendant, je conseille à Audrey et à tout le monde d'aller lire, bien sûr, votre roman. C'est chez Julliard et ça s'appelle, ça ne s'invente pas, Héloïse Houille.
Comme ça, on voit avec quoi ça rime.
Dans un instant sur Europe 1, vous répondrez Franck Ferrand à la question de Stéphane sur les origines des cabinets de curiosité.
Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines.
Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Stéphane.
Je réponds si je peux, parce que là, on est en train de parler des tatouages de Jean Tellet.
Vous nous aviez dit que vous étiez tatoué, Franck. On veut
moi,
savoir
j'ai rien dit,
maintenant.
J'ai rien dit.
Si vous avez fait le malin un peu. Vous avez fait
le... Allons-y, parlons des cabinets de curiosité.
Exactement, alors, c'est la question de Stéphane.
C'est vous qui êtes la curiosité. En l'occurrence, on appelait ça des chambres des merveilles à la Renaissance, et c'était tout simplement des collections que développaient un certain nombre de très très riches mécènes pour montrer d'abord et surtout leur puissance, mais aussi leur intellection, mais aussi leur curiosité précisément. Les gens cultivés se ruaient pour visiter toutes ces collections. Alors on avait deux types de collections à l'époque. Vous avez celle qui était créée par l'homme. On appelait ça, alors d'un côté vous aviez les artificiala et mirabilia, c'est-à-dire tout ce qu'on était capable de faire en matière d'œuvres d'art, de cristaux, de monnaie, de choses incroyables, les armes, les manuscrits, etc. Et puis les scientifica, ça c'était plutôt les instruments scientifiques. Et puis, et c'est évidemment nous ce qui aurait tendance avec le recul des siècles à nous fasciner le plus, il y avait les autres collections. Celles qu'on considérait créées par Dieu. Et là, vous aviez les exotica, c'est-à-dire des plantes, des animaux exotiques, beaucoup aussi, disons-le, et il suffit d'aller visiter le palais Menchikov à Saint-Pétersbourg, hein, la collection des monstres de Pierre le Grand, tout ce qu'il pouvait y avoir d'un peu monstrueux dans la nature et qu'on collait dans le formol. Et les naturalia, ça sont justement les œuvres de la nature, insectes, squelettes, animaux empaillés, les fossiles, les pierres précieuses, tout ce que vous voulez, avec aussi des choses plus ou moins vraies, puisqu'on utilise le sang de dragon, la corne de licorne et tout ce que vous voulez. On faisait des catalogues de tout ça. Ces catalogues sont eux-mêmes devenus aujourd'hui des objets de collection et petit à petit, vers la fin du XVIIe siècle, début du XVIIIe, on s'est mis à se spécialiser et les collections, alors là, sont devenues beaucoup plus sérieuses et entre nous soit dit déjà un petit peu plus ennuyeuses. Vous aviez les collections de médailles, les collections d'histoire naturelle et tout ça. Ça commence à être tout de suite un peu moins rigolo. Et en tout cas, vous n'avez pas fini de rire l'une et l'autre, d'après ce que je peux voir.